faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi.
La Terre, moins 2, pas de déploiement.
Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire lescroissantsdescroissants@gmail.com. Avec la période de Noël qui approche à grands pas, le début de l'hiver et les nuits longues sont propices à se retrouver autour d'un bon foyer. Pour notre dernière rencontre de l'année, nous allons donc parler du feu. Bien entendu, nous allons parler du feu de bois, et certainement pas celui de fioul, de butane et de ces affreuses fausses cheminées, ou encore pire, de ces films qui représentent en boucle des flammes sur un écran LCD. Ou alors si, parlons-en. Le feu, cela réchauffe, mais sa vision est également chaleureuse. C'est peut-être pour cela que, dans certains steakhouses aux États-Unis, alors qu'au dehors, il fait une chaleur à cuire le steak sur le capot des voitures, on rentre à l'intérieur d'un bâtiment où la climatisation est poussée à 16 degrés et au milieu du restaurant, une magnifique cheminée laisse voir les flammes volubiles d'un beau feu. On n'arrête pas le progrès, certes, mais continuer tête baissée à accélérer contre un mur, ce n'est pas ça le progrès. Revenons-en à nos moutons un peu plus terre à terre, ou un peu plus en arrière. Le feu est domestiqué il y a environ 400 000 ans. On a retrouvé des foyers aménagés qui préfigurent une vie sociale autour de cet élément. Le feu permet de s'éclairer et donc de rentrer dans des lieux sombres ou de prolonger la durée du jour. Il permet aussi de cuire, ce qui réduit la consommation d'énergie pour digérer, d'éliminer des agents pathogènes. Sa fumée permet également de conserver les denrées. Mais qu'est-ce qui se passe autour de ces bouts de bois ? Au départ, on pensait que c'était un élément, comme la terre, l'eau et bien sûr le feu. Ce n'est qu'au XVIe siècle que Lavoisier donne la première explication moderne de l'existence du feu. Il parle de la combustion du bois par l'hydrogène. La flamme n'est que la partie la plus visible, la plus spectaculaire de la combustion. Pour obtenir une combustion, il faut un carburant, ici le bois, un comburon, qui est l'oxygène de l'air, et une énergie d'activation, notre allumette. Le tout se réalise suivant un procédé chimique appelé une oxydo-réduction. L'oxygène est ici l'oxydant, il est réduit, il gagne des électrons. Le bois est ici le réducteur, il s'oxyde, il perd des électrons. L'oxydo-réduction produit de l'énergie sous forme de chaleur, c'est une réaction exothermique. Si l'énergie produite par la combustion, d'oxydo-réduction, est supérieure ou égale à l'énergie d'activation, la combustion s'auto-entretient, il n'y a pas besoin de continuer à lui apporter de l'énergie pour qu'elle continue à se réaliser. Et c'est bien le cas de notre bois, puisque une fois qu'il est dans la cheminée en train de brûler, bien il continue à se consumer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Le bois, ce sont de longues chaînes de carbone et d'hydrogène qui, en se combinant avec l'oxygène, libèrent de la chaleur et se transforment en H2O, de l'eau, et en CO2, le dioxyde de carbone. De ce fait, il faut comprendre que le mécanisme inverse, qui transforme le CO2 en bois, ou en autre combustible d'ailleurs, requiert d'apporter la même quantité d'énergie. Usuellement, c'est le soleil, via le processus de la photosynthèse, qui apporte cette énergie. Certains parlent de capter le CO2 et d'en faire un combustible. La compréhension du mécanisme d'oxydo-réduction permet d'entrevoir l'impossibilité de ce processus au-delà d'un laboratoire ou d'essai. Il faudrait déjà capturer le CO2, qui est dilué à juste 0,04% dans l'air. Puis apporter cette énergie énorme pour le transformer, celle que finalement après on va récupérer par combustion, sans compter les pertes de rendement d'un moteur à combustion, un rendement qui plafonne par la physique à 50%. Mais revenons-en encore une fois à notre feu de bois et focalisons-nous sur notre flambée. Préparons une belle flambée. Les premières calories seront utiles pour chauffer notre bois. Dans un premier temps, il va passer au-delà de 100 degrés Celsius. L'eau qu'il contient va s'évaporer, il devient alors ce qu'on appelle anhydre sans eau. Une fois passé les 250 degrés, la chaleur décompose les chaînes carbonées du bois, il se gazéifie alors. Parfois, cette gazéification s'accompagne de crépitements lorsque le gaz qui est emprisonné se dilate et pousse les cellules du bois, qui craquent. Le gaz libéré est un combustible assimilable à du gaz naturel, comme le méthane. Le bois lui, se transforme en charbon. Le charbon est un carbone quasiment pur. On continue de chauffer, on arrive à 300 degrés. Une grande partie des gaz qui sont libérés s'auto-enflamment. Si l'on n'atteint pas cette température, eh bien, il faudra quelque chose pour créer l'étincelle qui enflammeront les gaz. À 500 degrés, le charbon se transforme en gaz qui sont riches en hydrogène, mais aussi en monoxyde de carbone, un gaz toxique pour l'homme. Puis, au-delà de 700 degrés, l'oxydation est complète. On obtient alors quasiment uniquement de l'eau et du CO2. Après ces explications, on constate donc que pour une bonne combustion, il faut atteindre de fortes températures, au risque sinon de ne pas brûler les gaz qui ont été émis ou de produire des monoxydes de carbone qui sont toxiques pour l'homme. On voit aussi que pour que le bois commence à brûler, il faut atteindre 250 degrés. C'est pour cela que l'on commence un feu avec du petit bois, car pour qu'il brûle, il faut juste apporter ce petit bois à 250 degrés. Autant dire que porter une grosse bûche de chêne à 250 degrés, cela nécessite bien plus qu'un simple briquet, alors qu'une brindille demande très peu d'énergie pour l'enflammer. Une fois que la réaction chimique s'est activée sur la brindille, eh bien, cette brindille va libérer de la chaleur qui va enflammer ensuite les bouts de bois plus gros qui vont à leur tour avoir assez d'énergie pour enflammer notre bûche. On voit aussi une explication de pourquoi le bois mouillé a bien du mal à brûler, car pour le porter à 250 degrés, il faut d'abord chauffer assez pour en éliminer l'eau par évaporation, un processus de changement d'état qui est extrêmement énergivore. La compréhension de la combustion permet aussi de comprendre pourquoi il vaut mieux allumer le feu par le haut et non par le bas. C'est-à-dire qu'au lieu d'empiler du gros bois au-dessus du petit bois, il vaut mieux mettre le petit bois en haut et allumer en haut. Quand on allume ainsi le feu, la flamme est au-dessus du tas de bois. Elle va enflammer tous les gaz qui s'échapperaient du bois et assurer une combustion complète et donc parfaite, au lieu de laisser des suies et autres s'échapper dans l'atmosphère. De plus, cette pratique évite que la flamme soit refroidie par le bois présent au-dessus, ce qui implique de facto une mauvaise combustion. Dans une combustion, il faut également ne pas avoir trop d'air qui arrive, car l'air contient de l'oxygène à 20% seulement, l'oxygène qui est notre comburant, et donc l'élément utile pour notre combustion. 80% de l'air contient de l'azote, cela veut dire que l'air qui rentre dans notre poêle, 4/5 du flux ne sert en quelque sorte à rien et va venir refroidir notre feu, ce qui empêche sa bonne combustion. Il est donc utile d'avoir de l'air, mais pas trop, au risque de refroidir le feu et d'avoir une mauvaise combustion. Vous écoutez Les Croissants Décroissants. À la veille de Noël, pour cette dernière de l'année, nous nous retrouvons autour du feu. Maintenant que nous savons comment le feu de bois fonctionne, penchons-nous sur les moyens de le contenir, de chauffer. Le pire système que nous ayons inventé reste le feu de camp, qui est totalement inefficace. Pire dans la suite est la cheminée. 10% de l'énergie contenue dans les bûches est restituée à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que 90% de l'énergie part dans la cheminée. Heureusement, nous avons inventé depuis les fours à pain, puis les poêles. Un poêle ancien a un rendement d'environ 50%, ce qui est déjà pas mal, puisque toutes les machines à vapeur, y compris donc les centrales nucléaires, ou toutes les autres productions d'électricité qui brûlent de l'énergie fossile ou autre, eh bien, le rendement est plafonné par la physique à 50%. Donc, un poêle ancien est déjà au même niveau que la centrale nucléaire la plus efficace connue. Les poêles modernes, eux, affichent des rendements de plus de 70%. Certains parlent même de 90%. Sauf que ces rendements sont théoriques. Ils sont calculés ou mesurés dans les meilleures conditions. Un feu efficace quand on brûle l'intégralité du combustible, donc quand le feu est vif. Le rendement maximal donné par le fabricant, c'est donc quand le poêle est extrêmement chaud avec un feu extrêmement vif. Dans ces conditions, le poêle en fonte ou n'importe quoi que vous achèterez, eh bien, il ne tiendra pas très longtemps. D'autant que les poêliers proposent systématiquement des possibilités de ralenti, le pire mode de combustion qu'il soit, car la combustion est incomplète et car elle produit beaucoup de particules fines et potentiellement de monoxyde de carbone. Des particules fines qui auraient été brûlées si la combustion avait été à haute température et complète. Mais, au fait, pourquoi les poêles ne peuvent pas être en permanence avec un feu vif ? Parce qu'un feu vif, cela signifie que la température est importante, au-delà, par exemple, de 700 degrés Celsius. Sauf que l'acier contient lui-même du carbone pour que le fer puisse avoir une certaine résistance. Et quand on chauffe le métal, le carbone a malheureusement tendance à migrer. Sans compter que les cycles de chauffage et donc la dilatation créent des cris dans le matériau, au final, ces conditions fragilisent la structure du métal, la structure de notre poêle. Les poêles en fonte ou en acier ne supportent donc pas les feux trop vifs, en tout cas pas trop longtemps. Mais alors, comment peut-on passer outre toutes ces contraintes ? Il existe depuis des lustres une solution. Cela s'appelle le poêle de masse. Pourquoi ? Parce que la masse du poêle de masse, et donc la capacité thermique, permet à ces poêles d'absorber énormément d'énergie sans trop monter en température. Il y a donc beaucoup moins de risques de fissuration, car il y a moins de dilatation. De plus, de par leur composition, la plupart du temps de la terre ou des minéraux, les poêles de masse sont moins sujets à la fragilisation due à l'attaque des flammes et de la chaleur. Enfin, comme ils sont plus froids, ayant une capacité thermique plus importante, ils sont donc aussi plus efficaces pour absorber les calories des fumées. C'est-à-dire que la flamme, si elle arrive sur un corps qui est déjà chaud, on ne va pas pouvoir transférer beaucoup d'énergie de la flamme au corps chaud. Par contre, si le corps du poêle est plutôt frais, eh bien, l'échange sera toujours beaucoup plus important. Les fumées ressortent d'ailleurs d'un poêle de masse aux environs en général de 80 degrés pour assurer une bonne évacuation des fumées dans le tuyau jusqu'au faîte de la cheminée, sans qu'il y ait de condensation et donc de goudron dans la cheminée. Et à l'intérieur du poêle, les flammes peuvent atteindre largement 800 degrés Celsius. Donc 800 degrés Celsius pour 80 degrés Celsius en sortie, cela donne un rendement d'à peu près 90%. Un rendement largement supérieur aux publicités faites par les constructeurs de poêles en métal. Il existe de nombreux autres avantages aux poêles de masse. Ils garderont la chaleur sur plusieurs heures, une journée, voire plus pour certains. Il n'y a donc qu'une flambée à faire par jour. La pièce restera chaude, sans plus s'en occuper. De plus, alors que les poêles usuels en métal chauffent l'air par convection, principalement, le poêle de masse, lui, rayonne, ce qui produit une sensation de chaleur plus proche de celle du soleil. Un confort thermique accru, on a son propre petit soleil dans la maison. Aucun risque donc de s'y brûler, la chaleur est douce. Ils ne craignent pas les feux violents, au contraire, il faut les approvisionner avec un feu le plus violent possible qui aura le meilleur rendement possible. On peut donc leur donner un combustible, toutes sortes de bois, même les résineux, car aux températures atteintes, aucun risque, les goudrons qu'ils contiennent ne brûlent pas, ils seront brûlés dans la chambre de combustion et ne se déposeront pas sur la fumisterie. On peut y brûler des bois de toutes sections. Exit les corvées de fendage de bûches, exit les gros arbres à couper. D'ailleurs, ce sont des pratiques qui se sont répandues que récemment avec la facilitation due à la mécanisation du sciage et du fendage. Avant, on récoltait le bois par trogne notamment, c'est-à-dire qu'on coupe les branches de l'arbre au lieu de couper l'arbre, ce qui lui permet de continuer à produire des branches et donc à nous approvisionner sans tuer la poule aux œufs d'or. Quand on prend du bois de petite section, il met aussi beaucoup moins de temps à sécher. On considère qu'une bûche sèche en 2 à 3 ans environ, alors que les petites sections peuvent sécher en moins d'un an. En contrepartie, le poêle de masse, c'est un meuble qui est plutôt lourd, de quelques tonnes. On ne peut donc pas le poser n'importe où dans la maison. Il vaut mieux le mettre au centre de l'habitation et il vaut mieux également le mettre au centre de l'habitation pour que son rayonnement puisse profiter à l'ensemble des occupants. Mais pour revenir aux avantages, on peut le fabriquer soi-même. Il est entièrement personnalisable et c'est tellement valorisant d'avoir construit son moyen de chauffage. Alors, certains diront que c'est coûteux. En effet, clé en main, cela dépasse souvent les 10 000 euros. Mais fait avec les moyens du bord, un peu de récup, on peut en construire pour quelques centaines d'euros en moins d'une semaine, mais tout de même quelques semaines de réflexion. Et puis ensuite, à l'usage, eh bien, il n'y a aucune partie électronique, il n'y a aucune régulation, il fonctionne d'eux-mêmes, c'est extrêmement robuste. Pour résumer tout ce que nous avons dit sur le feu, un bon feu, c'est un bon feu vif et surtout pas au ralenti, surtout pas dans une cheminée, mais dans un poêle. C'est un feu avec du bois sec. Et c'est un feu dans un bon poêle, comme un poêle de masse.
N'écoutons pas les Khmer verts et les prédicateurs à lampe à huile.
T'as lu Le Monde, Le Figaro?
Ouais.
T'as lu L'Équipe, t'as lu Métro. Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Alors que les pesticides chimiques ont décimé pendant des décennies les populations d'insectes pollinisateurs, précipitant ainsi vers l'extinction l'indispensable biodiversité animale et florale qui en dépend, les lobbies de l'agrochimie poussent à marche forcée la Commission européenne pour déréglementer les OGM. Ils font croire que les nouveaux insecticides basés sur l'usage d'ARN interférents qui s'attaquent aux mécanismes génétiques du vivant ne relèveraient pas de la modification génétique. On pourrait donc non seulement en planter partout, laisser se disséminer les gènes, laisser contaminer les pollinisateurs, les exploitations bio, les jardins potagers. Et cela sans aucune obligation d'information, que ce soit dans le champ, l'étiquetage ou l'assiette. Il y a de quoi peut-être s'énerver un petit peu.
Oui, 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 pas bon pour ma santé Monsanto. Oui, 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 pas bon pour Monsanto ta santé.
Il rachète toutes les semences de la planète qui a la prétention d'acheter la vie. Monsanto veut avoir les mains sur les manettes, nourrir l'avenir selon ses envies. Il veut contrôler le destin de l'humanité, avorter ce qui n'apporte pas de profit. Il n'a pas le souci de l'égalité, les procès lucratifs se font sans compromis. Qui de la poule ou de l'œuf a fait le premier cri? Demande à ton ami le bœuf. Il est nourri, mais une bonne côtelette ne fait pas trop d'esprit. Car aux OGM, t'inquiète, elle doit être garantie. Oui, 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 pas bon pour ma santé Monsanto. Oui, 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 pas bon pour Monsanto ta santé.
Au final, tout deviendrait des OGM sans le dire. Ou comment bafouer le droit le plus élémentaire de s'alimenter avec de la nourriture saine dans un environnement sain. Affaire à suivre, car sous couvert de cette manipulation lexicale, des essais ont quand même déjà été réalisés en plein champ en Europe à l'insu de tous. Enfin, pas à l'insu de tous, parce qu'il y en a certains qui ont autorisé ces essais. Des personnes que l'histoire pourra peut-être un jour juger, mais dont le potentiel crime est irréparable. Alors, il y a peut-être de quoi être un petit peu en colère. Mais c'est les fêtes. C'était Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. Joyeuses fêtes et à l'année prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau.